Et tout de suite, c'est l'heure du journal présenté par Lise Verbeck.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi du pape en ce jour de Noël s'est teintée de politique. Dans son message adressé à la ville et au monde, François s'est tourné vers le Moyen-Orient, souhaitant la reprise du dialogue entre Israéliens et Palestiniens et appelant au respect du statu quo de Jérusalem. Nous serons avec Mathilde Imberti depuis Rome. Après la mort de deux mineurs, deux frères au Maroc, les habitants de Gerada, dans le nord-est du pays, manifestent depuis hier. Une colère sourde, nous dira Sarah Maquet, qui rappelle une autre contestation sociale, celle des habitants du Rif, la région voisine de Gerada. Le droit au logement a manifesté tout à l'heure sous les fenêtres du ministère du Logement à Paris. Pour ce Noël solidaire, Noël de combat, comme le nomme le DAL, qui a voulu rappeler au gouvernement l'une de ses promesses faites cet été, plus personne dans les rues d'ici la fin de l'année. Louis-Valentin Lopez a recueilli des témoignages de mal logés. Quand le chapon ou la dinde de Noël deviennent un poulet sauce soja. À la fin de ce journal, la belle histoire de ce restaurateur de rue à Singapour qui fait un carton à Noël avec ses poulets et cela grâce à l'étoile Michelin qui l'a rendu célèbre. Pour le cinquième Noël de son pontificat, le pape François a délivré un message plus politique que religieux. Depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre, devant 50 000 personnes, avant la bénédiction Urbi et Orbi, à la ville et au monde, François a déclaré que les vents de la guerre soufflaient dans le monde. Le pape Mathilde Imberti, qui a appelé à la paix pour Jérusalem et une solution à deux États dans le conflit israélo-palestinien.
Dès les premières phrases de la bénédiction, le pape se tourne vers le Proche-Orient et Jérusalem, rappelant la position du Saint-Siège, le statu quo à Jérusalem.
Nous voyons Jésus dans les enfants du Moyen-Orient qui continuent à souffrir à cause de l'aggravation des tensions entre Israéliens et Palestiniens. En ce jour de fête, prions pour qu'entre les parties, la volonté de reprendre le dialogue l'emporte et que l'on puisse finalement parvenir à une solution négociée qui permette la coexistence pacifique de deux États à l'intérieur de frontières définies entre eux et reconnues internationalement.
Cet appel à la paix au Proche-Orient était nécessaire, commentent les fidèles réunis ici. Dans l'ordre de prise de parole, Catherine, Anne et François, quelques Français croisés place Saint-Pierre ce matin.
Très préoccupante, très alarmante. J'espère que ça va rebondir dans les oreilles de tous.
C'est ça l'espérance, c'est que le pape François soit écouté.
Soit écouté, entendu et que ça puisse progresser, évoluer dans une meilleure situation.
Oui, bien sûr, ça on espère beaucoup parce que c'est le Moyen-Orient, c'est vraiment le nœud qui devrait se dénouer et année après année, on trouve ça de plus en plus difficile.
On prie beaucoup pour eux parce qu'on les trouve extrêmement courageux d'arriver à s'enraciner dans cette terre alors qu'ils sont en butte à tellement de violence.
Le Proche-Orient, première terre de conflit citée par le pape, puis reprenant l'image de l'enfant, l'enfant Jésus, l'enfant né à Bethléem où ses parents se sont réfugiés, image que le pape déjà hier a utilisée lors de la messe de Noël. Reprenant donc cette image, le pape a listé les conflits résolus dans le monde.
Vediamo Gesù nei volti dei bambini siriani.
Nous voyons Jésus sur les visages des enfants syriens, encore marqués par la guerre qui a ensanglanté le pays en ces années. Nous voyons Jésus dans les enfants de l'Irak et dans les enfants du Yémen, où se déroule un conflit en grande partie oublié. Nous voyons Jésus dans les enfants de l'Afrique, en particulier en ceux qui souffrent au Sud-Soudan, en Somalie, au Burundi, dans la République démocratique du Congo, dans la République centrafricaine et au Nigeria.
Enfin, le pape François conclut par un appel à l'ouverture, à la charité. C'est la suite logique de l'homélie de Noël hier soir.
Il nostro cuore non sia chiuso come lo furono le case di Betlemme.
Que notre cœur ne soit pas fermé comme le furent les maisons de Bethléem.
Reportage de Mathilde Imberti, notre correspondante à Rome. La polémique risque de raviver les tensions entre Dubaï et Tunis, dont les relations diplomatiques ne sont déjà pas au beau fixe depuis plusieurs années. Vendredi, les Émirats Arabes Unis, pour des raisons de sécurité, a priori par crainte d'attentat, ont empêché temporairement des voyageuses tunisiennes d'embarquer sur des vols à destination de Dubaï, sans aucune explication. En réponse à cet imbroglio, la Tunisie a annoncé avoir suspendu les vols de la compagnie Emirates entre Dubaï et Tunis. L'affaire a eu un large écho dans les médias tunisiens et sur les réseaux sociaux. Les ONG ont d'ailleurs dénoncé une mesure discriminatoire et le gouvernement tunisien, Maureen Mercier, a lui aussi réagi.
Oui, le gouvernement a répliqué vivement. Depuis hier, les avions des compagnies émiraties n'ont ni l'autorisation de décoller, ni d'atterrir en Tunisie. L'ambassadeur des Émirats a été convoqué. Des pourparlers ont lieu entre ministres des Affaires étrangères, en ce moment même, pour tenter de résoudre la crise. Tous les partis politiques en Tunisie condamnent le comportement des Émirats. Dubaï évoque des motifs sécuritaires. Des informations sérieuses feraient état de menaces d'attentats terroristes impliquant des femmes munies de passeports tunisiens. Si du côté de Tunis, on peut comprendre les mesures de sécurité, ce qu'on ne tolère pas, c'est la manière dont les femmes tunisiennes ont été traitées. Le ministre des Affaires étrangères tunisien a confirmé avoir reçu des excuses du gouvernement émirati, mais il en veut plus, il réclame que ces excuses soient faites publiquement.
Et cette affaire se transforme donc en crise diplomatique, Maureen, entre les deux pays qui ont des relations déjà très compliquées.
Oui, les relations entre ces deux pays se sont compliquées suite à la révolution de 2011. Les Émirats Arabes Unis reprochent à la Tunisie son rapprochement avec le Qatar. Ils estiment que leurs intérêts sont menacés dans le pays. Depuis la chute de Ben Ali, ils y investissent d'ailleurs nettement moins. Les relations entre la Tunisie et le Qatar se sont approfondies lorsque Ennahda, le parti islamiste tunisien, était au pouvoir. Les Émirats ont espéré que la victoire en 2015 du parti Nida Tounes sur les islamistes écarterait Doha. Mais la Tunisie a conservé ses liens étroits malgré le changement de gouvernement, à la plus grande déception de Dubaï. L'autre dossier qui fâche, c'est le dossier libyen. Les Émirats espéraient que la Tunisie soutiendrait le général Haftar qui règne sur la partie est du pays. Mais la Tunisie préfère conserver une prudente neutralité sur ce dossier. Derrière cette crise partie d'un tarmac, il y a donc sans doute bien plus ces éléments-là.
Merci Maureen, merci correspondante de France Culture à Tunis. Ils risquent tout pour récupérer du charbon dans les mines désaffectées. Les habitants de Jerada, l'une des villes les plus pauvres du Maroc au nord-est du pays n'ont pas d'autre choix pour survivre, quitte à y laisser la vie, comme c'est arrivé à deux jeunes hommes de 23 et 30 ans, deux frères morts vendredi dans une galerie clandestine. Bonsoir Sarah Maquet.
Bonsoir.
Ce drame a mis Jerada en effervescence. Depuis hier, des milliers de personnes manifestent et dénoncent l'abandon et la marginalisation de leur ville.
Une foule compacte, serrée, silencieuse durant l'enterrement ce lundi en début d'après-midi des deux frères. Puis la foule devient bruyante, des slogans sont criés « contre l'injustice, pour la dignité ». Des mots empruntés à la colère des habitants du Rif, région voisine de Jerada au nord du Maroc. 200 km de distance et une même lassitude indignée. Dans le Rif, la colère a déjà éclaté en octobre 2016 après la mort d'un vendeur de poissons, broyé dans une benne à ordures alors qu'il essayait d'empêcher la police de détruire sa cargaison. Depuis, la contestation sociale est très vive. 11 mineurs de 10 à 14 ans doivent ainsi être jugés pour avoir participé la semaine dernière à une manifestation. Le choix d'une réponse répressive et parfois violente, donc, de la part des autorités, alors que le RIF attend toujours les investissements promis par Rabat pour désenclaver la région. À Jerada, aujourd'hui, c'est bien la même colère qui se fait entendre. Depuis la fermeture des mines à la fin des années 90, le travail manque pour les 9000 anciens mineurs. Beaucoup, comme dans le Rif, préfèrent partir. Jerada a ainsi vu le nombre de ses habitants passer de 60 à moins de 45 000. Ceux qui restent survivent comme ils peuvent. Il n'y a pas d'emploi, pas d'usine, expliquait cet après-midi à l'AFP un responsable de l'Association marocaine des droits de l'homme. Creuser des mines illégales, risquer sa vie, mourir en essayant d'échapper à la misère. Jerada, aujourd'hui, dit non et demande à Rabat la fin de l'injustice et de la marginalisation.
Sarah Maquet. Chaque audience se tient dans une ambiance très tendue. La cinquième du procès du journal turc Cumhuriyet n'aura pas fait exception. 17 journalistes et employés du quotidien d'opposition se sont une nouvelle fois retrouvés face au juge, accusés d'activités terroristes. L'un des prévenus a été expulsé à la demande du tribunal qui lui reprochait de se livrer, je cite, à une défense politique. 4 collaborateurs du quotidien ont été maintenus en détention. Une prochaine audience aura lieu le 9 mars. Ce prochain, le procès de Cumhuriyet est devenu emblématique des atteintes à la liberté de la presse en Turquie. Le pays qui occupe la 155e place sur 180 au classement de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières, qui qualifie le pays de grande prison à ciel ouvert pour les journalistes. Depuis la tentative de coup d'État en juillet 2016, des milliers de reporters ont perdu leur poste. Des journalistes souvent proches de l'opposition, qui ont désormais beaucoup de mal, Alexandre Billette, à exercer leur métier.
3000 journalistes qui ont perdu leur emploi depuis la tentative de putsch, souvent parce que le média pour lequel ils travaillaient a été fermé par décret gouvernemental. Et c'est le cas de centaines de journaux, revues, chaînes télé, soupçonnés de soutenir les putschistes ou encore le terrorisme du PKK kurde ou de l'extrême gauche. Et c'est pour l'un de ces médias fermés que travaillait ce journaliste qui préfère garder l'anonymat.
Dans ce média, environ 100 personnes ont perdu leur travail. Et parce que nous étions considérés considéré comme un média d'opposition, nous n'avions aucune chance de trouver un travail dans une autre rédaction. Moi, je n'ai réussi à être embauché nulle part. En fait, c'est un petit milieu et tout le monde sait pourquoi vous avez perdu votre travail.
Résultat, certains de ces journalistes ont quitté le pays, d'autres sont restés en Turquie, mais en changeant radicalement leur vie professionnelle.
Des collègues ont dû se résoudre à faire un autre métier, comme moi d'ailleurs, comme menuisier. J'ai trouvé un travail auprès d'un artisan ici à Istanbul, en fabriquant des jouets pour enfants et des petites pièces en bois.
Récemment, ce journaliste a finalement pu intégrer l'équipe d'un média toujours en activité. Mais les choses ne sont pas simples. Dans cette rédaction, les salaires n'ont pas été versés depuis l'été dernier.
Reportage d'Alexandre Billette à Istanbul pour France Culture. Journée meurtrière au Yémen, les combats se sont intensifiés dans la province de Hodeïda, dans l'ouest du pays. Plus de 60 rebelles houthis et soldats pro-gouvernementaux ont été tués. Hodeïda a une importance capitale, son port sur la mer Rouge étant le principal point d'entrée des importations du Yémen. Les Houthis contrôlent la ville et le port. La coalition menée par l'Arabie Saoudite tente d'empêcher l'entrée d'armes sur le territoire, donc via le port. C'était attendu, mais cette fois c'est officiel. L'opposant russe Alexei Navalny n'a pas obtenu l'aval de la Commission centrale des élections pour se porter candidat à l'élection présidentielle en mars prochain. Commission qu'il avait d'ailleurs déjà déclarée inéligible l'été dernier en raison de sa condamnation pour détournement de fonds, affaire qu'il juge montée de toutes pièces. Navalny accuse le Kremlin de torpiller sa candidature et appelle ses partisans à boycotter la présidentielle russe. En cette période de Noël, la trêve des confiseurs ne doit pas faire oublier ceux qui n'ont pas de toit au-dessus de leur tête. L'Association pour le droit au logement a organisé à Paris cet après-midi un Noël solidaire. Bonsoir Louis-Valentin Lopez.
Bonsoir Lise.
Le DAL qui veut aussi mettre un nouveau coup de pression au gouvernement qui s'est engagé à ne laisser personne dans la rue cet hiver.
Et oui, le sapin recouvert de guirlandes et les instruments à cordes, vous les entendez, ne cache pas le fond du message qui reste politique, une banderole avec cette promesse d'Emmanuel Macron. Plus personne dans la rue cet hiver. Promesse non tenue pour Jean-Baptiste Hérault, le porte-parole de Droit au Logement.
Des personnes âgées, des handicapés, des femmes, des enfants dans la rue. C'est nouveau, malheureusement, c'est une triste nouveauté.
Et sans abri, c'est le statut de Samia depuis 3 jours avec ses 2 enfants, 4 et 12 ans.
Je n'ai ni hôtel, ni hébergement, ni rien. Là, pour l'instant, pour ce soir, je serai chez une amie. Demain, je ne peux pas vous dire où je serai. Si je pouvais avoir juste une chambre d'hôtel, même une chambre d'hôtel, quelque chose. Il fait très froid. On va dans les galeries, on se réchauffe, on fait les magasins pour être au chaud. Et voilà, on essaye de survivre comme on peut. Il n'y a eu ni Noël, ni réveillon, ni rien du tout. Hein. Cette année, c'est vraiment compliqué.
Mais avec Droit au Logement, c'est un peu Noël. Et il y a du thé, il y a du café, les sourires. Donc, et forcément, parmi la centaine de personnes les plus ravies, ce sont les enfants, ravis mais aussi mobilisés.
La lutte continue, on n'est pas fatigué. La lutte continue, on n'est pas fatigué.
Meryem, Samia, Zayned, 3 amis ont mitouflé dans de grosses doudounes. Zayned qui vit dans un tout petit studio.
C'est tout petit, il y a une seule chambre, un salon, une cuisine et des toilettes et une douche, c'est tout.
Moi, je vois tout le temps des personnes dehors. Je vois jamais de personnes qui les aident. Emmanuel Macron, il dit qu'il va les aider, mais aussi, il les aide pas trop. Il y a même des personnes qui n'ont pas d'argent, ils ont des bébés, ils habitent à côté du métro. Et c'est dangereux, ça.
Et le rassemblement se déroule à la sortie du métro Varennes. Et ce n'est pas un hasard, c'est à 2 pas du ministère du Logement.
Reportage donc de Louis-Valentin Lopez. Pour ceux qui ont eu la chance de fêter Noël avec tout ce que cela implique, cadeaux, repas, décorations, il est temps de faire les comptes. À combien s'élèvent les dépenses moyennes des Français? Eh bien cette année, c'est Cofidis, la société de crédit à la consommation, qui a commandé une enquête à un cabinet d'études. Et l'enveloppe moyenne des Français interrogés, Marie Vienneau, s'élève à 749 euros.
Oui, alors 749 euros, c'est une moyenne. À Paris, ce serait 1199 euros. Il s'agit là de dépenses par foyer français, pas par personne. Les cadeaux arrivent, sont la première dépense, 323 euros, et deuxième, les repas, 130 euros. Alors, c'est la première fois que Cofidis commande une enquête sur la période de Noël. Ce qui est notable, c'est que le montant de 749 euros de dépenses globales est bien supérieur à toutes les autres estimations. Une autre étude européenne, commandée celle-là par une entreprise spécialisée dans les réductions d'information en ligne estime la dépense de chaque foyer français à 569 euros, donc presque 200 de moins, un montant plus en cohérence avec une étude menée pendant 18 ans par un cabinet Deloitte qui, en 2015, prévoyait, lui, une dépense de 577 euros. Alors, cette étude Deloitte a disparu, ce qui est un peu dommage, car depuis 18 ans qu'elle existait, il était possible de comparer les résultats sur longue période, ce qui permettait de voir que les dépenses de Noël reculent, notamment depuis 2010. Comme c'était une étude européenne, on pouvait également comparer nos dépenses à celles de nos voisins allemands et hollandais, qui sont plus basses, et celles de nos voisins irlandais et Grande-Bretagne, qui sont bien plus élevées. Cette année, donc, les données sur les dépenses de Noël sont plus limitées, mais les 1002 personnes représentatives de la population française qui ont répondu à l'enquête de Cofidis sur Internet ont répondu à une question qui permet de comprendre pourquoi l'Institut de Crédit à la Consommation s'intéresse à Noël. Cette question, c'est: de combien auriez-vous besoin en plus pour financer votre Noël idéal? Et la réponse, c'est en moyenne 900 euros de plus. Sous-entendu, un Père Noël qui se laisserait aller ou n'hésiterait pas à recourir au crédit pourrait dépenser 1651 euros et non pas 749, de quoi nous faire regretter que le Père Noël n'existe pas.
Le Père Noël qui n'existe pas, c'est vous qui le dites. Merci Marie Viennot. 749 euros, c'est donc a priori la dépense moyenne en des foyers français à Noël. Et pas uniquement pour les cadeaux, l'idée c'est aussi de se faire plaisir en mangeant mieux qu'à l'accoutumée. Et pourquoi pas pour les plus gourmands, un restaurant étoilé. Le voyage est un peu cher, mais le prix du menu défie toute concurrence. Des directions Singapour, où se trouve le restaurant étoilé le moins cher du monde. Le Hong Kong Soya Sauce Chicken Rice and Noodles, c'est son nom. Restaurant de rue, situé en plein cœur du quartier chinois, qui a été récompensé d'une étoile Michelin il y a 2 ans. Et cette année, le guide lui a réitéré son étoile, mais pas question pour son patron de changer sa manière de faire. Il vend toujours le même poulet, les mêmes nouilles, le même riz, pour moins de 2 euros. Il a juste beaucoup plus de clients, Margot Bédé.
Ça, c'est la file d'attente.
Ah, ok.
Si Martin n'a pas le courage d'attendre plus d'une demi-heure pour un restaurant de rue, Gran, chinois de 34 ans de passage à Singapour, ne pouvait pas faire l'impasse.
J'ai appris l'existence de ce restaurant dans un magazine en Chine. Je sais qu'il est très connu, il a une étoile Michelin. Je pense que ça vaut le coup d'attendre pour la bonne cuisine.
Déjà assis à une table, Cham, fidèle client de 71 ans, se délecte de son poulet sauce soja. C'est la première fois qu'il revient ici depuis que le restaurant a obtenu une étoile Michelin.
Au départ, quand ils ont obtenu l'étoile Michelin, la file d'attente était extrêmement longue. Pendant un moment, on a arrêté de venir.
14h, le restaurant ferme boutique. Tous les clients n'ont pas été servis. La centaine de poulets est partie en moins de 2 heures. Un peu plus loin, Connie tient une échoppe de soupe. Si elle n'a pas vendu la totalité de ses mets, elle n'est pas amère pour autant.
Beaucoup de gens viennent et nous demandent où se trouve le restaurant étoilé.
Ça doit être un peu agaçant pour vous, non?
Pas vraiment, on se sent assez fiers. Les gens viennent jusqu'ici pour un collègue qui tient aussi un restaurant de rue. Je pense que c'est très encourageant pour nous tous.
Je ne pensais pas que j'aurais un jour une récompense comme celle-ci. Ce que je voulais au départ, c'était juste monter mon petit business pour gagner de l'argent et faire de la bonne cuisine pour mes clients.
À 58 ans, Chan Hong Meng est un nouvel homme. Terminé les 10 heures passées chaque jour au fourneau, le chef de cuisine est désormais un chef d'entreprise.
Aujourd'hui, mon emploi du temps est plus flexible. J'ai plus de temps pour chercher de nouvelles opportunités de business, plus de temps pour étendre mon business. Cette année d'ailleurs, nous avons un menu spécial Noël. C'est tout nouveau, on n'a jamais essayé ça avant. Habituellement, le jour de Noël, les gens mangent de la dinde. Mais parce que le poulet est proche de la dinde, je me suis dit pourquoi ne pas en profiter. Noël est très populaire à Singapour. Je pense que c'est une bonne opportunité.
Le chef Chan est obligé de s'interrompre. Plusieurs personnes ont sorti leur smartphone pour le prendre en photo. Devenu véritable emblème de la réussite à Singapour, il pose régulièrement tout sourire pour ses concitoyens.
J'ai du mal à m'habituer à ça, le fait d'être une célébrité. Mais je fais de mon mieux pour bien servir les gens.
Grâce à cette aventure, le chef Chan Hong Meng a pu pour la première fois découvrir d'autres pays. En 2 ans, le petit cuisinier de rue a ouvert 11 restaurants dans toute l'Asie et en Australie.
Un reportage de Margot Bédé, correspondante de France Culture à Singapour. Le temps pour demain mardi, pluvieux et venteux sur une bonne partie de la France, mais entrecoupé d'éclaircies dans le nord, le centre et les Pyrénées-Orientales, de la grisaille dans l'ouest. Pour les températures, il fera le matin 5 degrés à Lille, 6 à Paris, 7 à Brest, 9 à Strasbourg, 11 à Marseille. L'après-midi, il fera entre 11 et 16 degrés. C'est la fin de ce journal préparé avec Jean-François Braun.